Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Le pervers narcissique, souvent, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui se présente bien, qui va, en fait, revêtir un masque. Donc, ce masque-là, il va être idéal, en fait. Quand tu dis « c'est une drogue sur mesure », c'est exactement ça.
Mon invité est passionné de littérature, de musique et de cinéma. A fait des études de stylisme, mais elle se fait repérer par M6 à l'âge de 20 ans. Elle fait ses débuts dans l'émission Des clips et des bulles, puis aussi entre le monde de l'édition littéraire, du journalisme et de l'animation sur des grandes chaînes de radio et de télévision, jusqu'à son rôle actuel de chroniqueuse émérite dans l'émission Touche pas à mon poste. Pourtant, derrière ce parcours brillant, voire verni, se cache une histoire personnelle riche en défis. Élevée dans une famille adoptive, aimante, Sophie a connu des épreuves dès son enfance qui ont forgé sa vision des relations humaines et amoureuses particulièrement. Comme les substances, l'emprise crée un état de manque permanent alors que l'amour comble et complète, m'a-t-elle confié pour préparer cet épisode. Sophie veut désormais partager son histoire, celle d'une relation amoureuse avec un pervers narcissique. J'écris « amoureuse » encadrée de guillemets, comme une garde rapprochée, parce qu'il est bien plus question ici de violence que d'amour. 5 ans de grand 8, 24 heures sur 24, d'emprise émotionnelle, d'incompréhension, d'humiliation, mais d'espoir aussi qui se solderont par une demande en mariage foireuse qui révèle l'imposteur. Un déclic de plus, sauf que celui-ci semble être le bon. Elle découvre un monde derrière ce qu'elle a vécu, celui de la perversion narcissique. Et en bonne addicte qu'elle est, sa soif de connaissance sur le sujet devient inextinguible. Elle commence un travail personnel avec la psychothérapeute Anne-Clotilde Ziegler, dont l'ouvrage phare « Pourquoi suis-je restée ?» pourrait être le titre de cet épisode. Elle en témoigne aujourd'hui dans ce podcast pour la première fois, mais je l'espère aussi bientôt dans des écrits, tant les mots qu'elle utilise pour décrire l'enfer de la manipulation émotionnelle sont justes, nécessaires et d'une profondeur saisissante. Pour que la relation toxique ait lieu, il faut une victime et un bourreau. Quel est le rôle de chacun? Quelle responsabilité porte-t-il, si tant est que la victime en est une? Comment sortir de cette dépendance, mais surtout ne plus retomber dans le même tombeau? Dans cet épisode, nous parlerons d'emprise, de gaslighting, de manipulation, de love bombing, de dépendance affective et financière, des signaux d'alerte auxquels être attentif, des mécanismes d'emprise, mais surtout des moyens de s'en libérer. Merci Sophie Coste de dévoiler une facette peu connue de ta vie tout en offrant un message fort et positif. Bonjour Sophie, merci d'être là.
Merci Rose. Oui, c'est vrai que c'est très intime Et c'est assez déstabilisant d'en parler pour la première fois parce que c'est quelque chose, oui, qui touche à l'âme, en fait.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, d'en parler maintenant, aujourd'hui?
Je pense que c'est d'abord la confiance que j'ai en toi, parce que j'écoute ton podcast depuis longtemps et que je trouve qu'il est fantastique et qu'il peut aider beaucoup. Le fait de pouvoir aider peut-être d'autres femmes, alors à pas tomber dans le piège, je pense que c'est impossible, parce que c'est tellement bien fait que forcément on y va
au
début. Et puis la relation, elle commence comme une relation merveilleuse au début. Alors, on a envie d'y aller, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais peut-être de discerner, en tout cas, quelques éléments qui pourront leur donner des petits déclics, des petits indicateurs quand on commence à être dans le doute.
Parce que quand on commence à être dans le doute, on va aller checker le téléphone, regarder des choses et tout. Mais en fait, parfois, il n'y a même pas besoin de ça. Il y a quelques signes précurseurs du gars qui, en fait, et dans la manipulation totale, c'est ça? Enfin, alors, du gars ou de la fille, ou du père, ou de la mère, ou de la sœur,
oui,
ça existe
bien
dans
sûr.
Tous les...
Alors, il y a la manipulation, il y a les pervers narcissiques qui peuvent être votre patron, qui peuvent être votre frère, votre père, votre mère. J'ai participé à pas mal de groupes de parole aussi. Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient victimes de pervers narcissiques aussi. Ça touche plus les hommes, a priori, d'après les statistiques.
Ouais, c'est bien de le dire.
Mais il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. Et alors, là, on est carrément avec des monstres stiletto, parce que forcément, les femmes, quand elles sont stratèges, j'ai l'impression qu'elles sont très fortes.
Elles sont encore plus fortes.
Je ne vais pas dire ça, mais on va dire que ouais, c'est...
Parce qu'en plus, elles peuvent jouer de leur corps, de leurs atouts
y a ça aussi,
esthétiques, sexuels.
Alors, il y a ça chez l'homme aussi. Hein. C'est le pervers narcissique. Souvent, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui se présente bien, qui a une forme de magnétisme, qui va en fait revêtir un masque. Donc, ce masque-là, il va être idéal, en fait. Quand tu dis c'est une drogue sur mesure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va se présenter sous ses meilleurs atours en fonction de la personne qu'il a en face. C'est pour ça que c'est assez étonnant, quand vous connaissez la personnalité de l'autre, de se dire, tiens, c'est drôle, il s'entend bien et avec mes amis, et avec mes parents, et avec un tel ou une telle, alors que chacun est différent. Il a une véritable capacité d'adaptation et de changer de masque en fonction de l'interlocuteur qu'il va avoir en face. Et surtout, il va changer aussi de masque en fonction du fait qu'il soit en société ou qu'il soit dans l'intimité.
C'est bizarre parce que moi, je me méfie énormément des gens que tout le monde aime. Mais vraiment, j'ai un truc comme ça. Je pense que c'est vraiment pas pour moi. J'ai la chance, j'ai cette chance-là, il faut bien que j'en aie. C'est de pas être attirée par les gens manipulateurs, pervers. Je sens vraiment, en fait, j'ai comme une espèce de sens à détecter ça, à me dire, mais en fait, pourquoi il fait ça? Pourquoi tout le monde l'aime? Pourquoi il veut plaire à ma meilleure amie en même temps? Ouais, j'ai cette chance-là, heureusement.
Alors, tout le monde ne l'aime pas, mais il essaye de plaire à tout le monde.
Voilà.
Après, il y a des gens qui, peut-être comme toi, les détectent ou alors sentent par leur intuition, qui écoutent leur intuition, qu'il y a quelque chose de faux, quelque chose qui sonne... des mauvaises énergies aussi, il peut y avoir ça.
Peut-être que je suis jamais tombée sur un pervers narcissique et je me ferais peut-être prendre au piège comme tout le monde. Hein.
La perversion narcissique, en fait, moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet parce que c'est un terme qu'on emploie depuis assez peu d'années, mais qu'on emploie beaucoup. Par exemple, on peut voir les couvertures de magazines féminins, mon ex est-il pervers narcissique, etc.
PN.
Faites le test, les PN, etc. Alors, c'est un terme qui a été un peu galvaudé et malgré tout, ça reste quand même, il faut bien le signaler, c'est 2-3% de la population, donc c'est pas beaucoup, il y en a pas partout, on n'est pas entouré de pervers narcissiques. Ça concerne quand même très peu de gens. On peut être narcissique et c'est plutôt assez sain d'être narcissique. C'est plutôt assez sain de s'aimer et de montrer le meilleur de soi-même. Et on peut avoir certaines perversions. Après, là, on a les deux se mêlent l'une à l'autre.
Et un ego surdimensionné et en plus une perversion.
Ouais. Oui, il y a un ego surdimensionné. Et en fait, ce qui est assez confus justement chez ces personnes-là, c'est qu'on a l'impression qu'elles s'aiment énormément parce qu'elles sont dans un truc de déification. Hein. C'est-à-dire, moi, la personne dont je parle aujourd'hui, parce que je suis restée 5 ans avec elle et que je connais bien le sujet, mais je le connais à travers elle uniquement, c'est quelqu'un qui m'a dit un jour « je suis une divinité ». Je veux qu'on me considère comme une divinité. Ça, cette phrase-là, je l'ai entendue et l'a même ressortie après à ma meilleure amie qui était un peu estomaquée. Et moi, ça me faisait rire sur le moment. Je ne pensais pas qu'il était sérieux. Donc, c'est des gens qui vont se présenter comme ça, quelqu'un qui est très sûr de lui.
Comme Kanye West.
Kanye West, je pense que...
C'est impressionnant,
Kanye West. Il fait partie
West.
Des 2-3%.
Ouais.
Je ne veux pas m'avancer.
Non, mais moi, ça m'a toujours impressionné, les mecs qui sont... Vraiment, en fait, c'est pas un jeu. Ils se sentent vraiment...
Au-dessus.
Oui.
au-dessus, comme Dieu, comme vraiment, voilà, intouchables. Mais au fond, qui ont une véritable faille narcissique, énormément de failles narcissiques, et qui sont comme des coquilles vides. Donc, en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont absolument avides de trouver chez l'autre les qualités qu'ils n'ont pas.
En fait, ils se nourrissent. Voilà, c'est-à-dire, sans l'autre, ce sont des coquilles vides.
C'est
donc,
de la vampirisation.
Eux sont dépendants aussi de leur victime.
Ah oui, oui.
C'est ça, le sujet. C'est ça qui est important.
Oui, parce que tu parles de dépendance.
C'est une interdépendance.
C'est une codépendance absolue. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à en sortir et qu'on y retourne et que lui aussi y retourne. Le pervers narcissique, il faut savoir qu'il ne quitte pas. Il reste, puisque tant que vous le nourrissez, il n'a aucune raison de partir. Pour lui, c'est fantastique. Vous êtes son oxygène. Donc, il va pas partir. Moi, il m'a toujours dit, mais tu vois, contrairement à toi, moi, je ne t'ai jamais quitté. Ah oui, c'est sûr, il avait aucun intérêt.
En fait, il a souvent raison en plus. Il dit souvent des espèces de banalités, ou d'objets de croire, ouais.
Mais en fait, il ne dit que des vérités. Enfin, sur ce qu'il est, enfin sur ce que il peut mettre en place et mettre en œuvre. C'est là où c'est très pervers.
Très pervers.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'addiction, puisqu'on
l'addiction.
On commence comme ça en général.
Alors, pour moi, de ce que j'ai vécu par rapport à l'addiction. C'est un piège, l'addiction. C'est un piège qui peut se transformer en une véritable prison. Après, ça dépend à quoi on est addict. Parce qu'en fait, l'addiction ne se transforme pas toujours en dépendance. Et même si elle se transformait en dépendance, je pense qu'il y a certaines dépendances qui ne sont pas toxiques. Par exemple, je ne sais pas si on est addict, au tri sélectif ou aux vidéos de bébé panda. C'est pas...
C'est rare quand même.
Tu vois, il n'y a pas... Si, il y a des gens qui regardent toute la journée des vidéos de chiots, de bébé panda. C'est pas grave.
Tu rates ta vie quand même. Hein.
Je sais pas si tu rates ta vie.
Tu fais que ça.
Mais en tout cas, il n'y a pas de modification de la conscience et il n'y a pas une toxicité avérée. Après, il y a des substances, on sait très bien qu'elles sont toxiques parce qu'on nous le dit, parce que c'est marqué dessus. Et puis, il y en a d'autres, comme le pervers narcissique, on ne sait pas, en fait. On n'est pas... Je pense qu'on n'est pas assez informé sur ce genre de toxicité parce que nous, les victimes, même si j'aime pas ce mot-là, ou peut-être les proies, on ne voit que l'amour en fait. Voilà. Sauf que l'amour est censé combler et que cette emprise-là avec ce genre de personnalité, en fait, c'est l'effet inverse.
Alors, être connu, aimé ou célèbre, est-ce qu'au début c'était important pour toi ? Est-ce que l'enfance que tu as eue, et donc tu m'avais un peu confié sur cet abandon et donc une famille adoptive, tu peux nous raconter un petit peu cette enfance et puis à quel moment tu as eu l'impression que c'est dégagé de toi, justement ce désir d'être aimé, une dépendance en fait affective ?
Je pense tout de suite en fait à la naissance, parce que quand on est abandonné à la naissance, on a tout de suite un sentiment d'abord d'injustice aussi, pourquoi moi en fait ? Et on essaye de se faire aimer. Moi j'ai un frère qui a aussi lui été adopté, bon, qui n'est pas mon frère de sang, mais qui est mon frère.
Dans la même famille, vous étiez deux adoptés.
Oui, ma mère n'a pas pu avoir d'enfant et mon frère, ça se passait pas très bien. Donc moi, quand je suis arrivée, on a 5 ans d'écart. Il fallait que je sois la petite fille parfaite qui allait rendre heureux ses parents. Moi, j'étais... il fallait que la greffe prenne, en fait. Hein. Absolument.
Ouais, c'est bien dit.
Donc j'avais un rôle, en fait. Je savais que j'étais investie d'une mission. Et ma mission, et même encore aujourd'hui, je me sens aussi responsable presque quelque part. Alors maintenant...
Du bonheur d'autrui, en fait.
De mes parents. Et j'ai réussi à m'en détacher maintenant. Mais... ça m'a beaucoup conditionnée.
Il y a beaucoup de personnes qui m'ont raconté ça dans les dépendants, justement, qui sont arrivés comme aussi des enfants qu'on n'attendait plus, le dernier, le petit enfant. Et il y a ce truc-là de devoir, alors ce n'est pas forcément tous des dépendants, mais en tout cas de devoir rendre heureux les autres.
On a le rôle de sauveur, quoi. C'est
en
vraiment.
Fait, on se met en retrait soi-même. Tu t'es toi-même, tu as mis ton bonheur et ton propre bien-être en fait, de côté.
Oui. On n'est plus dans l'écoute de ses besoins. On est dans l'écoute des besoins des autres, en fait. Voilà. Et on veut absolument... Et finalement, moi, ce qui me rendait heureuse, c'était de voir les gens heureux. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai.
Est-ce que ça, c'est un terrain propice, justement ?
Oui.
C'est une question, mais bon.
C'est un terrain... C'est un terrain même fertile. Enfin, voilà. Ouais. C'est même pas des prédispositions. Alors, quoi.
T'en as eu d'autres, du coup. Enfin, là, on parle précisément de celui avec qui tu es resté 5 ans, dont tu as réussi à te séparer il y a quelques mois. Oui. J'espère que c'est pour de bon. Est-ce qu'avant ça, tes relations étaient aussi très similaires ? Est-ce qu'on était vraiment dans cette même dynamique ?
Alors, il y a une différence, en fait, entre... Alors, dans la perversion narcissique, il y a une volonté de détruire l'autre. Voilà. c'est de la destruction massive. C'est le but, véritablement. Et il y a une forme de jubilation absolue à voir l'autre en souffrance. Ce que je n'ai jamais eu dans d'autres relations. Jamais. Soit ça ne me convenait pas et je partais très vite et puis il n'y avait pas d'amour, donc ça se terminait. Soit c'était des relations, on va dire, intenses. Avec le père de mes enfants, par exemple.
Fusionnel.
C'était très fusionnel, c'était intense, c'était merveilleux.
Passionnel.
Passionnel. Mais il n'y avait évidemment pas du tout cette volonté de nuire à l'autre, de le détruire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est vraiment restés les meilleurs amis parce que je le connais, parce que je sais qui il est et parce que je sais qu'il me veut du bien. Avec l'autre personne, je n'ai quasiment jamais eu, je pense, accès à son authenticité et je ne pourrais jamais être amie avec lui parce que je ne le connais pas, en fait. Comment être amie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ?
Donc, c'est même pas de soi-même dominer, c'est vraiment de détruire.
Oui, il y a. Enfin, alors après, moi, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. J'ai beaucoup regardé et écouté des podcasts et lu des livres et travaillé aussi. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec une des grandes pontes de la perversion narcissique.
Ah oui.
Il y en a. Pour moi, deux qui sont exceptionnels. Il y a Marie-France Erigoyen qui est vraiment merveilleuse et qui se bat justement pour que les lois passent parce que c'est tellement difficile, mm-hmm. les violences psychologiques sur les femmes.
Moi, parce qu'on va en parler, il n'y a pas de violence physique.
Non. Le pervers narcissique, il lève jamais la... Enfin, il lève la main, mais il frappe pas. Il se met en colère.
Okay, okay.
Il n'y a pas de coup, il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Il efface tout. Hein.
C'est une emprise vraiment émotionnelle.
Voilà. Oui, il efface tout. Il efface même jusqu'aux mails, jusqu'aux messages, etc. Voilà.
Moi, il laisse pas de preuve, tu veux dire ?
Il n'y a aucune trace. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien. Quand je l'ai quitté, par exemple, je l'ai quitté souvent, hein, mais je suis revenue très souvent. Là, la dernière... ultime rupture, il est rentré dans mon ordinateur, il a effacé tous les mails qu'il m'avait envoyés parce que on a besoin, en fait, quand on est victime de ce genre de personne, je pense, de reconstituer l'histoire aussi parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'histoire.
Ce qu'on appelle le gaslighting.
Oui.
J'ai découvert ce mot grâce à toi, grâce à cette histoire. Donc le gaslighting, c'est de mettre quelqu'un... C'est l'embrumage, en fait.
C'est l'enfumage.
L'enfumage, je ne peux pas aller plus loin.
C'est l'enfumage massif.
Toi-même, tu avais l'impression que tu les avais rêvés, ces mails, ou non? Quand même, tu sais que tu...
Moi, il se trouve qu'en plus, les mails, je les avais consignés parce que je les envoyais à une copine. Donc à chaque fois, j'envoyais à une de mes meilleures amies.
Alors,
en
déjà,
lui disant...
faites ça. On va déjà donner cette astuce aux auditrices, aux auditeurs. C'est vraiment consigner. J'aime bien cette idée de consigner.
Il faut tout consigner. Voilà, parce que
envoyez tout à Sophie Coste, elle vous garde les mails.
Je vous mettrai dans ma Dropbox. Non, mais c'est important de le faire parce que, en fait, je pense que moi, j'ai la chance, j'ai pas d'enfant avec lui, j'ai pas été mariée, etc. Ouais, même s'il le voulait, il m'avait demandé en mariage. Enfin, parce que ça fait partie aussi de la technique. Hein.
Parce qu'après, t'es liée à vie avec cette personne.
Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, ça s'appelle le ferrage. Il y a beaucoup de termes techniques comme ça. C'est le ferrage, c'est le moment où, en fait, la victime va être hameçonnée, non seulement hameçonnée, mais en plus, elle va être verrouillée. Voilà, donc on verrouille comment ? On verrouille par... Alors, un mariage, il y a toujours un divorce. Mais on verrouille la plupart du temps par des enfants. Donc, il y a énormément de femmes qui ont des enfants. Bon, lui, il a fait un enfant avec une femme qui est aussi verrouillée, d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'elle est verrouillée dans une emprise aussi économique. Et avec cette femme-là, j'avais voulu, à un moment donné, échanger.
Cloisonne, bien sûr.
Faut cloisonner absolument pour...
Parce qu'en plus, tu as découvert qu'il n'était pas la même personne avec les autres.
Pas du tout.
Il joue le rôle pour chacun. C'est pour ça que c'est vraiment une drogue sur mesure.
C'est ça. C'est vraiment une drogue sur mesure. La dernière, par exemple, personne avec qui j'ai pu échanger, qui était donc sa dernière proie, il était complètement différent avec elle de ce qu'il pouvait être avec moi. Elle me disait, par exemple, quand on a parlé ensemble, elle me dit « je ne reconnais pas du tout cette personne. Pour moi, ce n'est pas du tout le même homme. » Alors, il y avait des similitudes parce que...
Il avait les mêmes techniques.
Oui. Voilà. Sur les mêmes techniques.
Mais il se fait passer pour la personne dont l'autre a besoin.
Alors, il va aimer, en fait, tout ce que... tu aimes la pêche à la ligne, moi aussi. Moi, comme tu l'as dit, je suis passionnée de littérature. J'ai travaillé pendant très longtemps dans l'édition. Alors, il aimait lire. Donc, moi, je lui offrais la Pléiade. Tous les mois, je lui offrais un auteur de la Pléiade. Mais en fait, il n'ouvrait jamais un bouquin.
Moi, je veux savoir comment ça a commencé.
En fait,
comment tu l'as rencontré? Alors, et comment ça a débuté? Comment ça s'est enflammé?
Alors, ça commence toujours de la même manière, en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de termes, plein d'anglicismes. Parce que c'est des concepts, en fait. C'est devenu des concepts. Alors, ça s'appelle le love bombing.
Ouais.
Donc, moi, je ne savais même pas ce que c'était que le love bombing. Si j'ai un conseil à donner aux femmes qui vont nous écouter aujourd'hui et qui se posent peut-être la question de savoir si elles sont avec un pervers narcissique, il y a quelque chose d'important que moi, je n'ai pas fait à ce moment-là, c'est d'écouter son intuition. Parce qu'il y a quelque chose de trop, en fait. Alors, ça va être ce love bombing, ça va être vous allez vous sentir comme une femme exceptionnelle, ce qui peut être aussi le cas dans une relation normale, on va dire, hein, de début de relation. Mais là, c'est too much. Il y a quelque chose où vous vous dites, tiens, ça va vite aussi, ça va très très vite. C'est-à-dire que moi, 2 semaines après la rencontre, il m'a demandé en mariage. 2 semaines, c'est très court. Il m'a même dit que son ex-femme était tombée enceinte 3 semaines après leur rencontre. Tu vois, donc, il y a des choses qui peuvent mettre un peu, qui peuvent alerter, où on se dit, tiens, mais ça, c'est quand même très rapide.
Mais c'est drôle parce qu'en plus, on connaît tous des filles ou des garçons qui ont toujours ce genre de relation. Moi, j'ai quelques amis où à chaque fois, ça commence comme ça. Et presque, on les envie, on dit, oh là là, elles vivent toujours un truc de fou. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Elles découvrent qu'il avait une autre vie, qu'il avait... À chaque fois...
À chaque fois, ça fait flop.
Oui, mais et ça n'empêche pas de recommencer ce truc-là, de revivre la même chose et se dire, non, mais cette fois, c'est incroyable.
Oui. Mais tant mieux, et heureusement qu'on peut se donner aussi la chance de revivre encore la même chose. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a confiance en l'amour, et ça veut dire qu'on y croit encore, et ça veut dire qu'il faut absolument se dire qu'ils ne sont pas tous comme ça.
Oui, voilà. Mais quand ça commence comme ça, tu viens de le dire pour les auditrices ou les auditeurs,
c'est un red flag.
C'est quand même un drapeau rouge, parce que c'est pas normal qu'en 3 semaines, on connaît pas les gens. En fait, tout le monde montre le meilleur de soi-même au début d'une relation. Voilà. Même quand c'est quelqu'un de normal, pas pervers, narcissique, on découvre des choses.
Ah oui.
Puis il y a aussi autre chose, il y a aussi les gens qui décompensent. C'est-à-dire que d'un coup, t'as quelqu'un et puis il y a quelque chose qui se passe dans votre histoire de couple, ou alors un drame, ou la mort de sa mère.
Un déclencheur.
Voilà, et soudainement, la personne devient quelqu'un d'autre, donc on a tous des mauvaises surprises à un moment ou à un autre, mais là c'est autre chose.
Mais là c'est autre chose. On a tous une part un peu sombre, on a tous des trucs qui vont venir faire des déclencheurs. Là c'est complètement autre chose.
Bon, là c'est la passion.
Oui, c'est la passion, puis c'est l'idéalisation. Comme je t'ai dit, voilà, on se trouve des points communs.
Vous êtes rencontrés comment déjà ?
On s'est rencontrés, en fait, on se connaissait déjà, mais de loin. On se connaissait déjà depuis... il était ami avec un de mes très bons amis, mais je le voyais jamais. Voilà, j'entendais parler de lui. Je trouvais qu'il avait une vie qui était... oui, un peu folle, et moi, j'aime bien la folie. Donc,
Il faisait quoi dans la vie, sans vouloir...
Il est alors, c'est un homme d'argent. Hein, il travaille
De pouvoir.
Dans la finance. Voilà,
oui, de pouvoir aussi. Donc.
Oui, de pouvoir. Y en a beaucoup dans la finance. Quand on a le pouvoir et un trouble de la personnalité, comme la perversion narcissique, ça peut faire de gros dégâts.
On le voit en politique.
Bah oui, on le voit en politique, on le voit dans beaucoup de sphères comme ça, dans les hautes sphères en tout cas.
De toute façon, le problème, c'est que c'est souvent ces gens-là qui veulent le pouvoir.
Bah oui, ils ont besoin. Parce qu'en fait, ils ont un besoin constant de contrôle et de domination. Voilà.
Mais on va parler après de son côté à lui, parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir aussi le prisme du bourreau. Parce que, par exemple, là, je lisais Neige Sino, Triste Tigre.
Ah oui, Triste Tigre.
On lit vraiment... On comprend pas, attention, pas du tout, il y a aucune excuse comme on est on regarde de l'autre côté voir comment cette personne devient comme ça.
Bah oui.
Et souvent en fait, il y a un déficit de confiance énormissime.
Bah en fait,
c'est comme le petit gros qui devient très drôle. Non mais à chaque fois c'est la même chose, tous les humoristes sont des grands dépressifs par exemple.
Oui, c'est vrai. Et en fait, il y a un schéma qui est assez classique chez les pervers narcissiques. Alors c'est assez encore peu connu hein, c'est pas considéré comme une pathologie, c'est considéré vraiment comme un trouble de la personnalité. En revanche, il y a des similitudes.
Alors, trouble de la personnalité, pour qu'on comprenne bien, c'est par exemple personnalité borderline.
Oui, ça pourrait être
ça,
personnalité évitante, ce genre. Voilà,
mais pas, par exemple, bipolarité, tout ça, c'est un trouble.
Ça, c'est
TDAH, c'est un trouble aussi, je crois.
C'est pas une maladie. Alors, il y a des psys qui disent, oui, c'est une pathologie.
C'est comme la mythomanie. Voilà. Vu qu'il y a de la mythomanie, c'est une pathologie, quand même.
Oui, bon. Mais pour l'instant, c'est pas répertorié, on va dire, officiellement, comme une pathologie. Mais enfin, tous les psys qui s'y connaissent très bien et qui sont aguerris à ce genre de choses vous disent, oui, c'est une pathologie, oui, c'est une maladie, évidemment. Bah, structurellement, en fait...
Ils ne peuvent pas faire autrement.
Ils ne peuvent pas faire autrement. Et il y a 2 cas de figure, en fait. Soit ce sont des enfants qui ont... parce que moi, j'ai beaucoup d'empathie, en fait, toujours.
Mais je comprends.
En fait, même pour la personne. C'est-à-dire que je ne lui en veux même pas.
Parce que tu sais que ce n'est pas de sa faute, quelque part. Mais c'est horrible, je comprends.
Oui, ce n'est pas de sa faute. Voilà, c'est comme ça. Il est structurellement fait comme ça. Je reste assez neutre, en fait, par rapport à ça. Je me dis, il est comme il est.
En fait, le but, ce n'est pas de détruire ces gens-là. Le but, c'est de pas tomber dans leur piège.
On peut pas les détruire de toute façon, ils sont toujours plus forts.
Ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est sortir de ce piège et surtout ne pas y tomber.
Oui.
Alors, tu le rencontres, c'est la folie, c'est la passion. Et très vite, tu te dis, il y a du trop. Mais bon, là, tu le sais pas.
Bah, je le sais, si, tout de suite. Parce qu'en fait, il y a des choses qui me vont pas. Il se conduit d'une manière un peu erratique avec les gens, et très arrogant. Des choses qui font pas partie de moi, de mon éducation, puis même qui me gênent un peu. Et puis, finalement, comme je suis assez empathe et sensible, je me dis, oh, bah, peut-être qu'il fait ça pour me plaire. Peut-être qu'il se dit que c'est viril. Je me dis, tiens, peut-être qu'il parle mal au serveur parce qu'il se dit, tiens, je suis un mec, alors je vais régler. Le truc, et puis moi, je lui dis, écoute, tu sais, pour moi, vraiment, c'est un turn-off, en fait, ça me plaît pas du tout. Ça me met mal à l'aise, ça me gêne, en fait, que tu... Donc, il va régler un peu le curseur.
Il veut te plaire, quand même.
Il veut plaire, et surtout, ce sont des personnes qui vont intégrer, en fait, toutes vos datas. C'est-à-dire que tout ce que vous allez leur dire, ils vont le mettre dans un disque dur, et en fait, ils vont s'adapter. Ça, c'est le début. Hein. Ça, c'est la phase de lune de miel, ce qu'on appelle la lune de miel.
Ou... Comme avec un produit, on appelle ça aussi la lune de miel, avec n'importe quelle drogue.
Mais tu sais, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que la comparaison, en fait, c'est exactement la même chose. La phase, en fait, de on teste, on trouve ça super et ça nous fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un manque à ce moment-là. Donc,
ça vient réparer quelque chose.
Ça vient réparer quelque chose. Quand on...
Là, toi, à ce moment-là, ça vient réparer ton manque de confiance parce que tu as quelqu'un qui t'aime.
Moi, je suis
dans ton entièreté.
Bah oui, moi, je suis clairement dans une période de ma vie où je viens de me séparer du père de mes enfants, où c'est très compliqué, où il le sait et où il s'engouffre dans ma faille narcissique. Voilà, là, c'est facile. Hein. Je suis très fragile en fait à ce moment-là. Hein.
En fait, il repère le corps de souffrance.
Oui.
Et
ils sont très forts.
Voilà,
très
et
fort.
Ils viennent se loger là.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Oui. C'est
comme
c'est...
la drogue, mais la drogue n'est pas une personne.
Ouais.
Mais la drogue vient se loger dans le corps de souffrance.
Ouais, c'est ça. En fait, oui, la drogue. Voilà, si. On compare avec la drogue, on va se faire un shoot, par exemple, qui va être peut-être le premier shoot, va être super parce que ça va te redonner confiance, parce que ça va venir pallier quelque chose qui manque. Et puis ensuite, on va jamais vraiment retrouver cette première fois, ce shoot.
Donc, oui, c'est la même chose.
Voilà. Donc en fait, c'est ça. Et puis lui, surtout, il va souffler le chaud et le froid. Donc on va être en permanence baladé entre quelque chose qui est super. Et puis ça se passe aussi au niveau neurologique comme la drogue. C'est-à-dire que c'est la même manière de fonctionner. Au départ, en fait, ce premier shoot qu'on a de love bombing, de
lune
de miel, ouais. On sécrète en fait de la dopamine. Toutes les hormones du bonheur, l'ocytocine, ces hormones qui sont super, les endorphines, etc.
C'est
donc on est vraiment bien quoi. Et on se dit waouh,
je plane en fait.
Ah ouais, je plane parce que on m'a jamais dit ça en fait. C'est une manière de procéder qui est c'est tout le temps. Donc on n'a pas le temps de respirer. On n'a même pas de recul en fait.
Il faut aimer ça quand même.
Bah moi je trouvais que c'était un peu too much. Parce que je me suis dit, mais bon, en fait, il ne me lâche pas, quoi. Enfin,
ouais.
Bon, ça va aller 5 minutes, il est quand même très
mais
présent.
En même temps, on s'habitue, s'il ne le fait pas, limite, on se dit, pourquoi il n'envoie pas ?
Bah, il ne le fait plus après.
Ouais. En fait, c'est un dealer qui est lui-même, en plus, c'est lui-même la drogue qu'il deal.
C'est horrible.
Il est dealer ouais. Plus produit.
Plus drogue. T'as tout résumé, en fait. Il deal sa propre drogue,
wow.
Qui est lui-même.
Ouais. Hein. En plus, ça ne lui coûte rien.
Alors, est-ce que ça ne lui coûte rien ?
Non, mais si, parce qu'il dépense beaucoup d'argent, mais ça, tu vas nous dire aussi. Il fait des cadeaux. Enfin,
beaucoup
ça
de cadeaux, ouais. Beaucoup de cadeaux.
Ceux qui n'ont pas les moyens, j'ai vu d'ailleurs, il y en a plein qui sont aussi donc, endettés et compagnie, parce qu'ils ont des vies. Bon, on les voit sur les documentaires Netflix, tous ces pervers narcissiques qui se sont inventés une vie. Il y en a, parce que lui, il avait les moyens.
Oui, lui, il avait les moyens. De toute façon, il met tout en œuvre pour vous plaire. Donc, quand on veut plaire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des cadeaux, on fait des surprises, on donne le meilleur de soi-même. Ça fait partie du game en fait, c'est normal de le faire.
Et au bout de combien de temps voilà ça change, enfin il y a quelque chose qui justement...
Alors ce qui est incroyable, c'est que je pense que c'est exactement comme quand on est sous l'emprise d'une drogue ou qu'on devient dépendant à un produit ou à l'alcool ou à la cigarette, on voit pas qu'on est en train de sombrer en fait. C'est pernicieux.
Ton entourage oui?
Non, parce qu'il plaisait à tout le monde. Alors il y avait des bémols, il y avait certaines personnes qui me disaient tiens, il essaye de me prendre à partie pour me dire oh, c'est pas facile quand même de vivre avec Sophie, elle est pas évidente. Hein. Comme c'est des gens qui me connaissaient très bien, ça fonctionnait pas. Mais voilà, il y avait des gens qui étaient plus réceptifs que d'autres.
Et très vite, tu vis avec lui ou alors il a sa propre vie, il est libre.
Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on vivait pas dans le même pays. Ce qui n'a pas été le cas, en fait, de l'autre proie avec qui j'ai pu parler, et même encore d'autres, d'ailleurs, du reste. Mais là, oui, il y en avait beaucoup.
Beaucoup en même temps.
Ah oui, en même temps.
Comment, alors, quelle énergie?
C'est fou, hein, quelle énergie, mais c'est ce que je me disais, quoi. Je me
ça
disais,
doit être horrible.
Je sais pas, parce que même les mensonges et tout, je me dis, mais comment ils faisaient pour...
On n'aimerait pas être eux, quand même.
Ah non, 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 on n'aimerait pas être eux, et puis on ne sera jamais eux, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est fou, le puis même la prise de risque, quoi, à un moment donné.
Ça m'angoisse quand tu t'engouffres dans un mensonge, mais tu finis par, voilà, Dupont de Ligonnès.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, tu finis par tuer tout le monde.
Tu finis par y croire, surtout, à tes propres mensonges. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que je pense qu'il croyait vraiment à ses mensonges. Et effectivement, pour répondre à ta question, moi, je n'ai pas vécu avec lui, parce que lui habitait en Angleterre et que moi, j'étais et je suis toujours à Paris. Mais cette fille qu'il avait rencontrée comme, bon, dans l'Eurostar, etc., tout de suite, il lui a dit, tu quittes ton appartement, tu viens t'installer avec moi. Elle a eu ce truc-là de... Parce qu'en fait, le pervers narcissique, il vous met dans une bulle, hein, c'est son truc, il vous isole. De différentes manières. Donc, être dans une bulle, quand on est amoureuse, au début, c'est chouette. En fait, on a même envie d'être dans une bulle. Mmh. Sauf que la bulle, elle dure, elle dure, elle dure, elle dure, et puis elle est de moins en moins sympa, la bulle. Elle est de plus en plus triste, noire, sombre, cette bulle.
Donc, et hermétique au monde, en fait.
Hermétique au monde. Moi, mes amis me disaient, mais on ne te voit plus, on ne fait pas de dîner, tu ne fais plus de dîner chez toi.
Tu n'avais pas le droit ou tu n'avais même pas envie?
Ah non, j'avais le droit de tout faire, ce n'était pas le problème. Et puis moi, tout le temps, c'est compliqué de me dire, tu n'as pas le droit. Mais il arrive, hein, d'une manière insidieuse, à vous faire entendre que moi, j'aimerais vraiment être avec toi ce week-end, c'est sympa. Regarde, on est tous les deux. Ou alors, voilà... Donc, du coup, parfois, on partait, on faisait des week-ends. Donc, on était rarement, en fait, finalement, à Paris, dans cette possibilité de voir ma famille. Il a dû venir une fois chez mes parents. Et mes amis, pareil, on ne les voyait pas beaucoup.
Et quand il n'était pas là, quand tu faisais ta
vie? Oui, oui, hein, quand oui, il n'était pas là, je faisais ma vie.
Tu n'étais pas trop isolée?
Non,
non,
moi,
plus, finalement,
non. Bah non, mais parce que je pense que j'ai cette chance aussi, voilà, d'être super bien entourée, ouais. D'avoir... une stabilité affective.
Je tiens à préciser que tu es quelqu'un qui me semble extrêmement intelligente. Donc, c'est pas un rapport à... parce qu'on peut se dire, oui, tu te fais enfumer, t'es idiote, quoi.
Ah oui, alors
tu
ça, c'est
Et ça, il faut arrêter, c'est pareil que tu prends de la drogue, t'es faible.
Ouais, c'est horrible.
Je pense que ça, il faut enlever cette image-là.
Mais non, bah non, parce que c'est horrible, c'est la double peine, en fait.
Mais par contre, j'aimerais savoir s'il y a un profil de victime. Parce
oui.
que, pas idiote, mais gentil, empathique.
Oui, empathique. Alors, les victimes, les proies, etc., sont forcément... empathique. Parce que, en fait, on essaye de comprendre. Donc ça, ça fait partie de l'empathie. On essaye de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. C'est la définition même de
Donc
l'empathie.
C'est très une intelligence émotionnelle, en plus, à la base, de comprendre l'autre.
C'est que, en fait, souvent, c'est des femmes qui sont HPI, HPE, hein, très souvent. Donc,
wow.
C'est
Au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel.
Bah oui, parce qu'il va prendre les qualités de l'autre. Si cette femme-là n'a pas de qualité au départ,
elle n'intéresse pas du tout.
Elle n'est pas intéressante. Il faut détruire. Donc, comment
c'est un vampire.
Il faut détruire quelque chose qui est fort, sinon c'est pas intéressant. Et plus la personne est forte. Par exemple, moi, j'étais la proie principale. Parce que j'étais... c'était tellement intéressant. Enfin, moi, j'étais un cas d'école pour lui. C'était génial de me détruire. Parce qu'il savait très bien qu'avec mon histoire, j'étais tellement résiliente. J'étais insubmersible. Moi, j'étais indestructible. Donc, il fallait y arriver. C'était le défi absolu.
Les autres, en fait, parfois, ils choisissent aussi des proies faciles.
Il n'y a pas de proie facile, je pense. Il n'y a pas de proie facile. Il y a peut-être parfois des prédispositions chez certaines proies, plus que chez d'autres, et puis des moments de vie où on se sent plus fragile.
D'accord.
Mais ce ne sont pas des femmes qui sont fragiles, ce ne sont pas des femmes
qui
sont naïves.
Oui, des moments de vie, oui, c'est ça.
C'est plus des moments de vie, c'est des contextes, en fait. Hein. Mais ce n'est pas la personnalité structurelle des femmes.
D'accord.
Ce sont toujours des femmes qui, au contraire, sont des battantes, qui sont des femmes fortes, qui sont indépendantes financièrement aussi, parce qu'il faut casser ça. Hein. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est le truc le plus important pour le pervers.
Quelque part, il est envieux aussi de...
Ah, il ne supporte pas.
Ouais, il supporte pas.
Il
veut être le seul à...
Le contrôle, la domination, il faut tout quitter pour lui. Moi, il me disait qu'il fallait mettre les enfants en pension, il fallait que je quitte mon travail, parce que qu'est-ce que c'était comme travail à la con? Je méritais tellement mieux que ce travail. C'était pas à moi, mais j'étais tellement plus à valoriser. Donc voilà, il fallait que je fasse des choses qui me ressemblent plus. Moi, je suis très heureuse dans mon travail. Donc
mais en fait, c'est pas vrai. Il veut pas que tu fasses des choses mieux, en vrai. Il veut juste que tu quittes ton travail.
Il veut que j'ai plus d'argent, en fait.
Voilà, donc c'est pas vrai. Il veut pas que tu trouves un travail plus valorisant, en vrai.
Non, il veut en fait que je m'occupe de lui et me donner de l'argent, m'entretenir en fait, voilà.
Mais il te fait croire quand même que tu mérites mieux en travail, c'est ça qui est fou.
Bah oui, parce que forcément, il arrive toujours avec des arguments où on doute, on se dit tiens, est-ce que je ferais pas autre chose? Est-ce qu'effectivement, là j'ai envie, puisque tu parlais de l'écriture, C'est vrai qu'en travaillant 4 ans dans les maisons d'édition, ça m'a donné envie d'écrire aussi, moi.
Parce que tu m'as envoyé, en tout cas, pour me faire comprendre un petit peu ton histoire.
Ouais.
Dans ma tête, je l'ai imaginé non seulement en livre, mais en film. Il y a eu un très beau film, il y a Mon Roi.
Ouais, Mon Roi, c'est magnifique.
Qui est vraiment incroyable. Et il y a eu là, avec, oh là là, moi, ça m'a, j'ai trouvé ça encore pire que Mon Roi, avec Virginie Ledoyen, en 2 parties.
Ouais.
C'est un téléfilm, enfin, un film en 2 parties sur France Télévisions. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, Virginie Ledoyen, elle commence pareil. Enfin, c'est la même histoire. C'est incroyable.
Alors, je ne l'ai pas vu parce que je les ai tous vus.
Ça met la haine. Ouais. Ça met une haine parce qu'en fait, il en fait. Donc, tous les gens proches d'elle lui disent, mais c'est plus toi.
Ouais.
Qu'est-ce
ouais.
qu'il a fait de toi? C'est une nana hyper. Enfin, elle doute de tout. Je crois qu'elle dessine, elle est archi ou je ne sais plus.
Ouais.
Et elle ne peut plus tenir, plus rien faire.
Ouais, c'est fini.
Ouais.
Bah c'est, on est dévitalisé
voilà.
en fait. Hein. C'est
comme ça. Comme si elle était morte. En fait, ses yeux sont éteints.
Oui. Et quand on sort de la relation, en fait, on est extrêmement fatigué. On est vraiment mais exsangue, en fait. C'est fini. On est comme vidé. Et c'est pour ça, je pense, qu'on y retourne aussi.
Exsangue. Ça vient de sensu, en fait, exsangue.
Ouais.
Waouh, j'adore.
Ouais, ouais.
Ça exsangue, ça veut dire vidé.
Vidé.
Ouais.
Vidé de sa substance.
On l'emploie rarement, c'est très beau. Ouais.
Bah, on n'y a plus rien, quoi. C'est fini. Et en fait, c'est pour ça qu'on y retourne. C'est pour aller rechercher une partie de nous-mêmes. Quelque chose qui nous manque.
Ouais, ouais, tu veux ton shoot, quoi.
Ah bah, ouais, on veut retrouver on veut retrouver la première gorgée de bière, hein, comme disait Delerme, c'est ça, quoi.
C'est ça.
C'est la première gorgée de bière qui est tellement bonne.
C'est extrêmement proche voilà. De la drogue, en fait.
Hein.
C'est la même chose, en fait.
C'est la même chose.
Ouais.
On parle pareil de manque. Hein,
comme une cigarette qui crée, je le dis toujours,
oui.
elle crée le manque.
Ouais.
Le manque, enfin, elle soulage le manque qu'elle crée.
Exactement. Bah, en fait, chez le pervers narcissique, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez venir soulager votre souffrance dans quelque chose qui est souffrant.
Ton histoire, moi, je veux aller au bout quand même. Je veux savoir un peu qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ça change.
Oui, bah alors ensuite, concrètement, en fait, il y a le manque qui s'installe parce que il y a plus, en fait, toute cette temporalité de textos, de machins, de trucs. Il y a à un moment donné une absence, un silence radio. Alors, on se dit, évidemment, on se remet en question, parce que c'est la première chose qu'on fait, hein, quand on est dans l'empathie, qu'est-ce que j'ai fait ? On finit même parfois par présenter ses excuses pour quelque chose dont on ne sait même pas pourquoi on s'excuse. Hein. On dit, mais je suis désolée, si je t'ai fait de la peine, vraiment, j'en suis désolée. Alors, pour le coup, moi, je n'ai pas effacé mes mails. Je dois en avoir une cinquantaine de... Écoute, je ne sais pas si j'ai fait ou dit quelque chose pour te froisser, mais en tout cas, ce n'était pas le but. Et je regrette, en fait, on regrette un truc, on ne sait même pas trop quoi, parce qu'il n'y a rien à regretter, parce qu'on n'a pas... Alors après, je ne suis pas non plus super tout le temps. Hein. Je fais des trucs aussi où je peux... Et puis, je réagis. Hein,
mais puis surtout, moi, je pense que ça peut rendre folle.
Bah, c'est
dans
le
film dont je te parle, c'est à la fin... En fait, le problème, c'est que les rôles s'inversent. On pense que c'est elle, la folle.
Mais c'est le but.
Oui.
En fait, le gaslighting...
Personne ne la croit.
Bah oui, le gaslighting, en fait, c'est ce qui vient après la période de lune de miel, après le love bombing. Alors, ça fait pas mal d'anglicisme. Ça vient d'un film des années 40, un film de Cukor, qui s'appelle Gaslight. Et en fait,
j'ai écouté un podcast sur France Inter qui explique bien ça.
Voilà. Et ça vient de ce film-là qui, en fait, c'est un mari donc, qui essaye de rendre sa femme folle. Le but, c'est de rendre fou l'autre. Plus personne ne la croit. Le but du pervers narcissique, en fait, c'est qu'il se protège de sa propre folie en rendant l'autre fou. Voilà. Pour éviter, lui, de tomber dans la folie, il va faire tomber l'autre dans la folie. C'est toi qui es folle.
Alors écoute, elle dit un truc extraordinaire, Neige Sino dans Triste Tigre, elle dit que c'est une protection de sa propre psychose. Le violeur, enfin le... Donc elle a été violée de ses 13,
ouais,
de 17 à 13 ans, hein, par son beau-père. Et elle explique que tout ce qu'elle a vu comme étude là-dessus, c'est des grands psychopathes, hein, mais qui, en fait, pour justement pas décompenser et pas eux-mêmes partir en vrille, la seule façon qu'ils trouvent pour se protéger, c'est de faire ce mal-là. Donc c'est ça qui est complètement faux. C'est pour ça que je dis, évidemment, on peut pas les aimer et on peut pas les excuser du tout. Mais quelque part, l'empathie, je comprends que t'en aies encore parce que tu te dis, on n'aimerait pas être eux, quoi.
Ce qui est important et intéressant aussi, c'est de comprendre.
On dirait que t'as fait une thèse.
Ah, moi, j'ai. D'abord, je suis journaliste, alors c'est vrai que quand il m'arrive un truc, je compulse tout. Et puis depuis toujours, en fait, j'ai besoin de comprendre. Alors parfois,
t'es une addict, on est d'accord.
Oui. Je suis addict à tout, en fait. Moi, j'ai aucune.
C'est quoi ta première addiction?
Je pense la littérature en premier. La littérature. Après, je suis addict à plein de trucs. Hein. Moi, je suis addict à l'odeur de mes enfants. Je suis addict
En fait, ce qui est fou, c'est que tu as des belles addictions.
À plein de choses. Oui, alors après, on peut aussi, comme moi, je suis nulle en modération et que j'ai essayé quand même des choses. J'ai pu aussi tomber dans la dépendance
de
sur des trucs toxiques. Oui, bien sûr. Bon, voilà, j'ai essayé des choses quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que je mets en garde mes enfants là-dessus aussi. Ne jamais essayer. Bon, alors après, c'est la phase bidon de daronne. Mais
ah ouais, tu dis ça, toi. Ah, moi, si ça j'arriverais pas à dire ça, je pense. J'arriverais pas à dire qu'il faut jamais essayer.
Ah, si ça pouvait fonctionner.
J'ai l'impression d'être très hypocrite dans le sens où moi, j'ai eu envie d'essayer. Personne n'aurait pu m'empêcher d'essayer.
Oui, mais si tu peux juste... Alors après, je pense que ça fonctionnera. Enfin, ça, c'est pas une phrase qui fonctionne, évidemment, mais tu te dis, s'ils pouvaient s'épargner ce genre de parcours, en fait, ce serait quand même pas mal.
On revient à l'histoire. Hein.
Alors, on revient à l'histoire. Alors, on s'égare. Je te parlais du gaslighting.
Bah oui.
Donc, le gaslighting, en fait, c'est ça. C'est ce qui va créer le manque, comme tu peux avoir le manque avec la cigarette ou avec l'alcool ou avec voilà, tout ce qui est dépendance. Donc, ça va être... moi, c'est ce que je lui disais tout le temps. Je lui disais, en fait... j'ai l'impression que c'est nébuleux. Voilà, c'était le mot que j'employais non-stop avec lui, parce que, évidemment, je lui disais quand même, je lui faisais part de mes émotions.
Ne serait-ce que sur son emploi du temps.
L'emploi du temps, alors ça, c'est marrant parce que j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Et c'est vraiment alors, le truc le premier sur lequel il faut se méfier, c'est-à-dire que vous ne savez jamais ce qu'il fait. Jamais. Mais jusqu'à la dernière minute, quoi. C'est-à-dire que moi, il était capable de me sortir des trucs où je lui disais, mais tu vas donc à l'aéroport, là, avec ta valise? Oui. Je dis, tu prends un vol pour où? Je ne sais pas encore. Je vais voir. Je ne sais pas si je rentre là ou si je vais là ou si je vais... Mais je lui dis, mais t'as pris ton billet? Oui, j'en ai pris plusieurs. Donc, il y a toujours... voilà, il y a toujours... Ce qui est faux, hein, mais il y a toujours une bonne truc pour... créer un flou, mais monstrueux.
Et il peut débarquer à l'improviste aussi.
Alors, ça, il le faisait... Enfin, moi, j'essayais toujours, en fait, de lui demander quand est-ce qu'il arrivait, s'il venait, parce que je disais, voilà, faut que je m'organise. Bon, ça le rendait dingue.
Il n'aimait pas, ouais.
Il n'aimait pas. Et quand il pouvait faire une surprise, d'ailleurs, la dernière fois qu'il a voulu faire une surprise, bah, j'avais un dîner. Et il m'a dit, mais... bah, en fait, c'est bizarre parce que tu fais jamais rien normalement. Je lui dis, bah, en fait, c'est vrai parce que je fais jamais rien parce que je l'attends. Donc, je l'attendais parce que je me disais, bah, c'est vrai, s'il vient, à la fois, j'ai envie d'être disponible pour lui. Et puis, si je prévois un truc, bah, je vais l'annuler. Donc, j'ai pas envie de l'annuler. Enfin, voilà, on devient dingue, en fait. Donc, oui, ça, l'emploi du temps, c'était une constante. Je ne savais rien de son emploi du temps. Bon, après, il y a les trucs, mais c'est parce que les pervers narcissiques, c'est des mecs qui trompent. Donc, forcément, le portable aussi, il faut juste méfier
un
petit peu.
Hein,
il est tout
en
mode avion. Alors, il est en mode avion, il est en mode lune. Il est de tout ce que tu peux inventer.
Le mode lune, c'est vraiment celui.
Ouais, ça, c'est des grands classiques. Mode lune, mode avion.
Tu n'as pas le droit de demander qui c'est ou qui c'est.
Mais
tu demandes qui c'est.
Non, non, mais de toute façon, il n'y avait pas parce que le téléphone était coupé. Quand on était ensemble, il n'y avait jamais.
Ah ouais.
Non, non. Le téléphone était toujours coupé.
Alors, ça, c'est un signe quand même. Si votre mec ou votre nana est tout le temps en mode lune, dites-vous qu'il y a sûrement une raison qu'il n'est pas juste en train d'essayer de déconnecter.
Ah bah moi, c'est ce qu'il me disait. Il me disait non, mais parce que je veux être complètement avec
pour
toi.
Ouais. Et combien de temps alors ça dure tout ça?
Bah, en tout et pour tout, ça dure... l'histoire en elle-même, elle dure 5 ans.
Ah oui?
Ah ouais, avec beaucoup d'allers-retours, beaucoup de ruptures. À chaque fois, c'était moi hein, qui partais parce que voilà, il y avait c'était trop. Et puis j'y retournais en fait, systématiquement.
Alors, tu m'as parlé du triangle de Cartman. C'est la dynamique de la relation, en fait, c'est-à-dire que les deux personnes, donc toi et lui, vous jouez alternativement 3 rôles, qui sont celui de la victime, du persécuteur et du sauveur.
Ouais.
C'est ça? Parfois, il se positionne en position de victime, c'est ça son truc?
Tout le temps?
Tout le temps.
Ah, c'est jamais de sa faute.
C'est jamais de sa faute.
Le pervers narcissique, il ne se remet jamais, jamais en question, jamais en cause. Il n'y a pas de recul sur la situation.
Oui, voilà. Adopter une posture de victime.
Oui, oui.
Alors, je vais te dire un peu les mécanismes. Tu vas me dire si c'est vraiment ça. Donc, manipulation.
Ouais.
Oui. Isolement.
Oui.
Évidemment. Rabaisser l'estime de l'autre, ça c'est constant.
Tout le temps.
Et remonter aussi son estime parfois ou pas?
Ah oui, oui. En fait, c'est une façon de... C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est en fait... tu vaux tellement mieux que ça.
Ah oui, c'est ça.
Donc, ça veut dire qu'en fait, bah, ce que je fais, en fait, c'est de la merde, puisque je vaux tellement mieux que ça. Donc, y a, en fait, c'est toujours un discours avec des doubles injonctions, si tu veux, tu vois. Tu sais plus ce que tu dois faire,
ouais,
en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que...
c'est très perturbant.
Bah, c'est super... C'est plus que flou. C'est...
En fait, tu sais plus qui tu es.
Ouais, ça te prive de ta réflexion. Voilà.
Alors, il y a cet effet miroir. Donc, il ajuste son discours en fonction de la proie. Hein.
Puis même au-delà de ça. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il va t'accuser de ce qu'il est, lui. Il va te dire, mais t'es folle. Mais non, c'est lui qui est fou. Il va te dire, mais là, ce que tu fais, c'est vicieux ou c'est pervers, etc. Et en fait, il faut faire attention aux adjectifs qu'il emploie parce que tous les adjectifs qu'il va employer se rapportent à lui. Hein. Ça, faut le dire.
Alors, c'est comme dans les rêves. Tout ce dont on rêve, c'est nous.
Ouais.
Et bien là, tout ce que celui-là va dire, c'est lui. C'est ça.
Mais c'est la folie comme...
Quand il t'accuse de le tromper, par exemple, c'est que lui,
il
te trompe.
Il dépeint son propre portrait. Donc, en fait, il donne tous les indicatifs, tous les indicateurs sur ce qu'il est.
Et tu m'as noté des choses où j'avais la colère au ventre, des choses qui te disent... la mise en danger, par exemple, moi, ça me rend folle, ça. Quand t'es sur la route avec des enfants dans la voiture et que d'un coup, tu sens monter le truc et quoi, il est colérique, il fait quoi en voiture, ce genre de
ça
truc?
Ça va être... d'abord, il y a beaucoup de colère. Donc, et comme il aimait bien les voitures et qu'il aimait bien conduire vite, ça pouvait se retranscrire comme ça. Mais c'était, en fait, la colère, c'était tout le temps. Parce qu'il y a une insatisfaction chronique, en fait, permanente. Quasiment. Hein. Moi, pour éviter la colère, c'est ce que je lui disais aussi, j'avais l'impression de tout le temps de marcher sur des œufs, en fait. Pour éviter, donc, je faisais en sorte d'éviter que ça explose. Mais en fait, on ne peut jamais parce qu'il vient vous chercher. Donc, quoi que vous fassiez,
oui, il y a des moments où, genre, tu disais Noël, ça, on connaît. Bon, ça arrive dans tous les couples, je te rassure. Il y a le Noël est toujours explosif.
Oui.
Mais c'est-à-dire, quand ça se passe bien, tu dis, ouf, ça s'est bien passé. Et non, il va venir chercher.
Ouais, j'avais adopté des techniques où, pour éviter de rentrer dans le conflit, moi, j'adore jouer au Scrabble. Donc, je joue au Scrabble.
Tu joues au Scrabble?
Ah, j'adore. Alors.
Tu joues au jeu sur.
Ouais, on
joue à World Fed.
Mais j'aime trop.
Toi aussi?
Ah, mais j'aime
je te
trop.
Demande en ami, tu me donneras en off ton pseudo.
Ah, bah voilà, j'ai trouvé une Scrableuse.
J'adore.
Donc, je jouais au Scrabble, tu vois, je me mettais sur mon application et je jouais au Scrabble toute seule et tout. Et en fait, ça le rendait dingue. Donc, la dernière fois que j'ai fait ça, parce que je voulais vraiment éviter un conflit, il est venu, mais comme un gosse, en fait. Et là, il m'a tordu la main, tordu les doigts pour que je réagisse. Enfin, ouais, je suis là, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, en fait. Mais c'est normal, parce qu'ils sont restés, en fait, à l'âge de 4 ans, à peu près. Il y a un problème entre le moi et le sur-moi. Moi, je suis pas psy, donc je préfère pas en parler, mais je l'ai bien intégré et je l'ai bien compris.
Bah oui, parce qu'il y a un besoin d'attention
permanente.
Orphère. Un manque d'empathie aussi, donc il n'a pas du tout.
Il n'y a pas d'empathie.
Il n'y a pas d'empathie.
Non, il n'y a aucune empathie.
Alors, il y a le langage de la perversion. Alors, celui-là, bon, c'est toujours pareil, c'est genre, regarde tout ce que je fais pour toi.
Oui.
Le mieux, c'est genre, de toute façon, toi, tu ne pourras jamais m'offrir. Enfin, tout ce que tu m'offres, de toute façon, je peux me le payer.
Alors, ça, c'est... Ah oui, alors ça, c'est une phrase que je t'avais dite. Ouais.
Genre, ça, tu ne sers à rien parce que de toute façon, tout ce que tu vas m'offrir, je peux me le payer.
Bah, je me rappelle de cette anecdote, c'était un jour où vraiment, je m'étais mise en quatre pour lui faire un cadeau parce que j'avais envie de lui offrir un très joli sac de voyage. Enfin, bref. Et j'avais une amie qui travaillait pour le groupe, c'est un groupe de luxe, bref, et elle pouvait m'avoir un discount. Mais c'était un peu compliqué à mettre en place, donc ça prenait du temps, en fait, de pouvoir avoir le sac, le 10 sacs en question. Voilà. Et puis, à un moment donné, je lui dis, je suis contente parce que je vais pouvoir te faire ce cadeau et tout. Et il me dit, moi, j'en ai plus envie.
Ah.
J'en ai plus envie parce que j'aurais dû me le prendre, en fait, j'aurais dû me l'acheter parce que là, ça fait trop longtemps. Bah, je lui dis, non, écoute-moi, ça me fait plaisir de te l'offrir, mais je lui dis, voilà, je peux avoir un prix sur ce truc-là. Je trouve ça dommage de l'acheter plein pot et pas d'attendre 2 semaines pour le prendre. Mais je lui dis, bon, déjà, je me sens responsable parce que je me dis, ah, le pauvre, j'aurais vraiment dû, c'est vrai. Alors, j'étais peut-être été un peu rat, finalement, de vouloir faire un cadeau un peu moins cher. Mais bon, c'était quand même quelque chose qui valait vraiment très cher. Et puis, quand il l'a reçu, ou à un moment donné, je ne sais plus à quel moment la phrase a été dite, mais m'a dit, la différence entre toi et moi, c'est que moi, tout ce que tu m'offres, je peux me l'offrir.
Oh.
Voilà, donc c'est des phrases qui sont des phrases assassines. Et après, on va vous demander, pourquoi vous restez?
Ouais, c'est ça. Ouais. On a envie de te demander ça, évidemment, mais en même temps, moi, je n'aime pas qu'on me demande pourquoi tu as continué à te droguer, bah, d'après toi.
Ouais,
parce que j'étais dépendante,
ouais,
tout
c'est
simplement.
C'est un classique.
C'est quoi cette fois-ci qui a fait que pour l'instant, tu n'y retournes pas?
Alors, je vais te dire, c'est très simple en fait. C'est comme je te l'ai dit, j'ai un problème avec la modération. Donc, quand je buvais quand même beaucoup. J'avais un peu une descente de polonaise.
Parce que tu tiens, pourquoi pas?
Bah, écoute, oui, je tenais, mais enfin, c'était même pas le sujet. C'est-à-dire que comme je faisais les matinales en radio, bah, toute la semaine, je buvais pas une goutte d'alcool. Et puis le vendredi, c'était un peu genre je me bingeais. Donc lui, il avait trouvé une excuse toute prête, en fait, pour m'accuser de tous les maux. C'était l'alcool. Donc l'alcool était un vrai problème. Hein. Moi, j'avais un problème d'alcool, c'était un problème. Bon.
Et ce qui
n'est
non.
Pas... Non, non.
Parce qu'il est dans le contrôle.
Dans le contrôle,
il n'a jamais merdé.
Ouais. Jamais, oh là là.
Ces gens-là ne font jamais de... En fait, ils ne se laissent pas du tout vriller.
Ah bah non, jamais. Contrôle, tout le temps. Tac, tac, tac. C'est... Bah sinon, comment avoir 4 meufs à la fois? Enfin, tu vois, si tu ne contrôles pas, quoi. C'est un peu compliqué.
Oui.
Mais et en fait, alors le déclic, il est venu de là. Et d'ailleurs, vraiment, pour ça, je le remercie parce que, effectivement, moi, ça commençait aussi à me poser un problème, hein, ma consommation.
Elle arrive à le remercier encore, t'as vu ?
Oui, oui, bien sûr, parce que c'est chaque personne qu'on te met sur ton chemin, dans ta vie, c'est pour te faire avancer. Hein. Donc,
on rencontre des gens, voilà. En fait, s'ils sont sur ton chemin, c'est que c'est ton chemin.
C'est pas un hasard. Ouais, donc, il n'y a pas de problème. Dis. Moi, voilà, il a été le bienvenu dans ma vie pendant 5 ans, avec des moments off, des moments on.
Il t'a fait avancer.
Il m'a fait énormément avancer. Il n'est plus dans ma vie. Il le sera plus jamais. Mais il n'y a rien de grave. Moi, je n'ai pas laissé vraiment des plumes comme certaines femmes. J'ai toujours mon travail, j'ai toujours mes amis, j'ai toujours mes enfants, j'ai toujours ma santé.
Et tu as appris sur toi.
Et j'ai beaucoup appris sur moi. Alors après, oui, j'étais très, très fatiguée et j'étais très, très. J'ai perdu beaucoup de poids quand même. Mais les kilos, ça
se reprend. Mais moi, je dis souvent que ce qui m'intéresse dans contradiction et dans le fait de parler d'addiction, ouais. C'est pas l'addiction et le produit, le truc trash et tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est le chemin sur lequel ça nous met.
Bah oui.
Et c'est souvent une chance, entre guillemets, parce que c'est parfois des raccourcis vers ouais. des choses. Bon, on l'a vu avec l'ayahuasca, c'est des raccourcis vraiment très, très violents.
Ah oui.
Mais avec d'autres drogues, avec d'autres choses, l'autre jour, on a eu Julie, on avait l'impression que quoi qu'elle aurait fait dans sa vie, elle était obligée prendre l'héroïne, on lui a proposé par tous les moyens, il fallait qu'elle soit héroïnomane. Quoi.
C'était son chemin.
Ouais, c'était son chemin et ce ouais. chemin, elle a fait qu'elle s'est soignée. Bon, on ne va pas parler de ça maintenant parce que l'épisode sera déjà
je l'adore,
sorti.
Vous irez l'écouter. Ouais, c'est génial.
Vous irez écouter l'épisode. Ouais. Mais honnêtement, c'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est ton chemin. Quoi.
Oui,
c'est...
oui. Et puis, je vais te dire un truc, ça n'aurait pas été lui, ça en aurait été un autre.
Exactement.
Voilà, tu vois, alors, bon, bah, il se trouvait que lui, il était là, mais que voilà, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de confusion dans cette relation. C'est marrant parce que d'ailleurs, étymologiquement, la confusion...
C'est resté en fusion.
Ouais, c'est resté en fusion. Mmh. Et lui, c'est ce qu'il veut. Moi, ce qui m'a, en fait, ce qui a été le déclic,
voilà.
Ça a été d'avoir plus de clairvoyance par rapport à cette relation-là. Et pour avoir plus de clairvoyance, j'ai enlevé l'alcool du centre de ma vie. Donc, ça fait 1 an quasiment que je ne bois plus une goutte d'alcool.
J'ai envie de te dire bravo.
Bon, écoute, ça ne m'a pas coûté tant que ça, en fin de compte, parce que...
Bon. Je ne sais pas comment tu étais il y a un an, mais je ne sais pas, tu as un visage... T'es resplendissante.
Alors, j'ai bien fait de venir.
Ah ouais, non, mais franchement, c'est incroyable. Quelle beauté.
J'ai bien fait de venir, merci. J'ai enlevé ça de ma vie pour faire une expérience, pour voir si ça m'apportait plus de clairvoyance. Et en fait, la relation était toujours aussi nébuleuse et ça n'avait absolument rien à voir. Bon, il se trouve que je suis très contente d'avoir fait cette expérience avec l'alcool.
Ça n'avait rien à voir, mais quand même, moi je pense que quand on est en lendemain de cuite ou qu'on n'est pas bien parce qu'on a trop bu, on a besoin d'appeler, on fait de la merde, on envoie des textos. Si tu t'es séparée par exemple du gars, tu lui renvoies un texto quand t'as bu, oui ou non?
Ah mais ça, voilà. C'est le cauchemar.
Là, tu le fais pas quand tu bois pas.
Ah non, ça, je le fais pas quand je bois.
Donc, ça change beaucoup.
Ouais, ouais, le texto de 3h du matin où tu commences par tu me manques et puis ensuite ça.
Genre, tu le débloques déjà parce qu'il était bloqué. Bah, en donc, fait, à 3h du matin, tu
en fait,
débloques
c'est pas
le
que
mec.
Tu le débloques, c'est que tu le débloques, tu le rebloques, tu le débloques, tu le rebloques, tu le débloques. Non, mais oui, tu fais un peu n'importe quoi. Ouais, c'est sûr que ouais, bah, c'est pas pareil.
Donc, il y a une différence.
T'as moins de discernement, on va dire.
T'as envie de recommencer à boire?
Je me pose pas la question, en fait. J'ai pas envie de me mettre des barrières ou des... Voilà. Le problème, c'est que...
En tout cas, c'est en étant clean d'alcool que t'as réussi à quitter ce mec. Donc, coïncidence, je ne crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non,
comment
en fait,
tu l'as quitté? Comment t'as fait?
Non, parce que j'ai arrêté de boire. J'y suis retournée. Alors, avec, effectivement, peut-être sûrement un peu plus de clairvoyance. Mais ça n'a rien changé, en fait. C'était pas vraiment... Le sujet n'était pas l'alcool.
D'accord.
Hein. C'est deux sujets complètement différents.
Et pourquoi t'es retournée? C'est-à-dire, il est venu te chercher?
Oui, oui, comme d'habitude. Bah, il est revenu me chercher avec les violons et avec les larmes et avec... en plus...
Je vais changer, par exemple, c'est une phrase qui peut revenir?
Ah, je vais changer, mais c'est pas je vais changer, c'est le mec, il a changé, tu vois, qu'il a changé, il pleure, des larmes de sang, il a le cœur qui bat, la chamade. Ah, et puis en plus,
les poètes.
J'étais avec mes enfants, et... mais vous vous rendez pas compte comme j'aime votre mère, et puis vous aussi, vous me manquez, et puis vous êtes ma famille, enfin...
Et tes enfants, alors, là-dedans?
Mes enfants, ils sont un peu tristes parce qu'ils l'aimaient beaucoup et qu'il était très complice avec eux. Il a toujours été vraiment adorable avec mes enfants.
Non, je veux pas que tu te rappelles du bon, là.
Donc,
je suis pas là pour ça.
Oh non, mais moi,
je suis pas
sais,
là pour ça.
Moi, j'ai pas de problème à me rappeler du bon. Hein. J'ai aucun...
En tout cas, il leur a pas fait de mal à eux.
Bah si, si, franchement, ils sont hyper tristes. Et puis, ils lui en veulent vachement. Ils sont très en colère, hein. Vraiment, ils en parlent beaucoup. Et je leur dis, si vous avez besoin d'en parler, c'est bien. Moi, aujourd'hui, j'en parle avec toi. Donc, je pense que, voilà, c'est bien d'en parler. Mais j'espère qu'à un moment donné, voilà, avec le temps, ça ira. Moi, je les préservais beaucoup sur ma relation. Ils ne savaient pas que j'étais triste le matin. Ils ne savaient pas que je pleurais le soir.
Ah, t'as trois garçons, hein ?
Ouais, j'ai trois mecs.
Alors moi, c'est ça qui m'a marqué quand j'ai regardé un peu toute ton histoire, c'est qu'il n'y a que des mecs, en fait, autour de toi. Tous tes patrons.
Oui.
Donc, de Michel Foucault à Robles, à Cyril Hanouna.
Avec des hommes.
Que des hommes.
C'est vrai.
Est-ce qu'il y en a eu, sans citer de nom, est-ce qu'il y en a qui t'ont fait du mal ?
Dans mon travail.
Ou en citant des noms. Hein. Est-ce que tu as connu des patrons de radio, de télé, pervers narcissiques, justement ?
Honnêtement, je me suis toujours préservée. J'ai jamais eu vraiment. Non, j'ai plutôt eu des bonnes relations.
Moi, je t'ai rencontrée, d'ailleurs, la première fois que je t'ai vue, j'étais invitée chez Nolo.
Chez Nolo.
Ouais, et je suis venue parler de kérosène, c'est
oui,
ça ? Et
oui.
T'étais émue au larmes. Mais en fait, maintenant, je comprends. Tu as compris ce que c'était. Tu savais ce que c'était l'addiction.
Ça me parlait tellement, en fait, kérosène, vraiment, les textes et tout. Et je trouve ça. Moi, j'ai tout de suite eu une sororité avec toi. Et puis, ce qui est génial, c'est de transformer ça dans la création.
Bah aujourd'hui, c'est vrai que je suis hyper heureuse parce qu'en fait, j'ai la parole. Comme tu peux le voir, je parle beaucoup, je coupe la parole. C'est ma marque de fabrique et je ne supporte pas qu'on me laisse pas parler. Donc, au moins, la promo, moi, ne m'intéresse plus dans le sens où j'avais toujours l'impression d'être un peu potiche ou alors on m'a invité pour chanter la liste. Moi, j'ai envie de parler. J'ai besoin de raconter. Et là, toi, aujourd'hui, est-ce que des gens vont être surpris de ce que tu nous racontes? T'as peur de ça?
Alors oui, j'ai beaucoup hésité à le faire parce que c'est quand même se mettre à nu complètement. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup gagné à me retrouver, en fait. Hein. C'est pour ça que je considère que cette relation, j'ai rien perdu. Tout le monde me dit, oh là là, mais quand même, non.
On a la même façon de voir les choses.
Ah ouais, j'ai rien perdu, vraiment. J'adorerais un jour pouvoir à nouveau l'avoir dans ma vie parce que j'ai toujours eu, moi, mes ex dans ma vie qui sont revenus d'une manière ou d'une autre, mais même parfois des années, parfois 10 ans après. Lui, je ne vois pas encore très bien, mais peut-être c'est encore trop récent. Mais je pense que structurellement, ça va être compliqué quand même d'être avec quelqu'un qui est dans cette perversion, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je me suis retrouvée. Et,
de quoi tu as envie, toi, aujourd'hui ?
Mais de le dire, de dire que voilà. Et puis, enfin. Alors,
est-ce que tu vas devenir un peu la porte-parole?
Non.
Parce qu'aujourd'hui, quand même, comme tu m'as dit, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de violence physique.
Non.
En tout cas, j'ai vu que ça avançait de ce côté-là. Il y a des lois qui sont en train de se faire voter. Puis il y a aussi la CAF. Il y a enfin une aide qui est accordée à des victimes qui doivent partir de chez elles.
Oui.
Moi, je pense qu'il vaudrait mieux surtout trouver le moyen de faire partir le mec, quoi. Mais bon. Est-ce qu'on a le moyen de porter plainte aujourd'hui contre les violences
psychologique. Il y a une loi, attends, j'avais noté parce que alors là, je suis pas. Alors du coup, non seulement je suis pas psy, mais je suis pas encore.
Non, mais je veux le numéro de la loi, le tirer.
Encore
tout.
Moins juriste. Oh, bah, je vais te la ressortir, attends.
Mais très, très bien.
Non, mais j'avais noté parce qu'en fait, c'est la psy dont je te parlais tout à l'heure, qui est Marie-France Arrigoyen, et qui est une femme exceptionnelle sur justement les violences, le harcèlement aussi au travail. Elle a beaucoup travaillé là-dessus et qui se bat pour que justement il y ait une loi et que ce soit reconnu parce que c'est très compliqué en fait quand le pervers narcissique il arrive au tribunal, à l'entretien, etc. Par exemple, avec le juge aux affaires familiales pour la garde des enfants et tout. Lui, il est très clair dans sa tête. Hein. Il n'y a pas de problème. Il a un discours qui est cohérent, qui est très net. En plus, souvent, il a l'argent. L'autre, elle sort de la relation,
elle
comme je te le disais.
Folle.
Bah oui.
Elle est détruite.
Elle est fatiguée. Elle ne sait plus où elle en est. Elle doute. Donc, elle a un discours.
Elle prend des médicaments souvent.
Parfois, ça peut aller aussi avec. Mais elle peut avoir un discours, justement, qui n'est pas clair. C'est perdu d'avance, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Et moi, à chaque fois que je lis des témoignages ou des, justement, d'expériences de femmes, moi, c'est pas aller aussi loin. Hein. Je m'en suis sortie avant. Mais ça peut, hein. Ça peut aller super loin. Ça peut aller au suicide. Ça peut aller vraiment.
Bien sûr. Bah, évidemment.
Voilà, dans des extrêmes, dans une extrême aussi dépendance financière aussi. Hein.
Une fois que tu as l'impression que tu peux plus aller nulle part, tu as perdu tous tes amis ou tu t'es isolé de tout et que tu n'as même plus les moyens de partir. En fait, c'est la même chose. Violence physique, violence psychique, c'est même pas. J'ai pas envie de dire pire.
On ne peut pas dire pire parce que ce serait horrible pour les femmes battues.
Mais en tout cas, c'est similaire. On est bloqué.
Parce
on est pris au piège.
Ce qui est pire.
Moi, je préfère la drogue de loin.
Voilà. Au pervers narcissique,
oui.
Écoute, franchement, tu sais quoi, je rebourrais bien une petite bière, là, tu vois.
Tu m'as donné envie de boire un coup, là.
Ouais, je te donne envie de boire un coup.
Bon, bah, on va finir là-dessus, on va se prendre une ginger beer. Hein.
Ginger beer.
Personnellement, ça va être ça, malheureusement.
Tu
pour
bois
moi.
Plus non plus.
Non, je bois plus, mais bon, je vais régulièrement voir si je peux boire.
Ah oui, d'accord. Et tu constates que non.
Non, je peux pas. Non, je bois plus du tout. Et quand ça m'arrive, c'est vraiment parce que je suis éloignée de Paris et que je sais que je ne vais pas. Parce que moi, mon problème, c'est la cocaïne, vraiment.
Ouais.
Et que le lien entre. Enfin, je ne vais pas tout raconter, mais c'est vrai que régulièrement, je ne sais pas si je suis malade, guérie, si je peux m'en sortir, si on peut reboire, si on ne peut pas reboire. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, pour comprendre.
On s'arrange aussi avec sa propre morale. Hein,
ouais, mais moi, je sais que je vais extrêmement bien quand je ne consomme rien et que ma vie est vraiment un rêve éveillé quand je ne bois pas. Et je crois qu'aussi pour savoir si on est heureux, il n'y a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est que la définition du bonheur et tout. Quand on a souffert comme on a souffert en étant dans l'addiction et dans la prison, comme tu as parlé, dans ce piège, quand on n'est plus dans la prison et le piège, déjà on est heureux.
Bien sûr.
Voilà. Donc moi, à partir du moment où je me réveille le matin, même si j'ai dormi 3 heures parce que j'ai fait une insomnie, je m'en fous.
Mais tu sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la liberté.
La liberté. Oui, mais si on a connu la prison, on apprécie la liberté.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que la contradiction est hyper importante. Il n'y a pas l'un sans l'autre, la beauté et la laideur. On peut comprendre ce que c'est que le beau si on a vu le laid. On peut comprendre ce que c'est que la liberté si on a connu l'emprise.
Exactement.
Bon, on aurait pu parler des heures, on l'a vu. Je te remercie, c'était un
merci
plaisir,
à toi,
Sophie.
Pour moi aussi. Merci, Rose.
Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors, vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.